L'Autriche, le futur pays hôte du prochain concours Eurovision de la chanson, ce sera fin avril, début mai ou fin mai, je ne sais plus, a annoncé, l'Autriche donc, qu'elle n'imposerait aucune restriction particulière au public lors de la prestation israélienne. Elle ne interdira ni les drapeaux palestiniens, ni les huées. Eh oui, ben voyons. On en parle avec Anthony, notre spécialiste maison de l'Eurovision et notre envoyé spécial chaque année qui ne manquera pas de nous en parler en temps utile, mais hier il s'exprimait justement sur cette décision de la radiodiffusion autrichienne, donc je le rappelle, de ne pas empêcher les drapeaux palestiniens ni les huées pendant la prestation israélienne au prochain concours Eurovision de la chanson. Anthony est au micro de Blaise van der Linden.
Anthony, bonjour.
Bonjour Blaise, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Vous êtes notre spécialiste Eurovision sur la radio. Et bien, une actualité est arrivée. La télévision publique autrichienne ORF, qui accueillera l'Eurovision à Vienne au mois de mai 2026, a annoncé qu'elle n'interdirait aucun drapeau officiellement reconnu, y compris le drapeau palestinien, et qu'elle ne filtrerait ni les huées, ni les réactions négatives du public lors de la prestation israélienne. Anthony, est-ce qu'on assiste là à une première dans l'histoire du concours ?
Alors, les drapeaux ont toujours été problématiques. Il y a des années où on avait interdit le drapeau de la communauté LGBT, on avait interdit le drapeau de l'Union européenne. Donc, les drapeaux ont toujours été un petit peu problématiques. Et c'est vrai qu'à une époque, on avait même décidé d'avoir uniquement les drapeaux de pays qui concouraient au concours Eurovision, qui seraient admis dans la salle. Donc, ça a toujours été un peu problématique. Les drapeaux palestiniens n'ont jamais vraiment causé problème, sauf depuis l'année dernière, où ils n'ont pas été autorisés, parce qu'évidemment, il y avait déjà pas mal de problèmes et pas mal de tensions dans la salle. Et c'est vrai que c'est une nouveauté qui, s'ils vont laisser passer n'importe quel drapeau, c'est assez nouveau. Alors, pour les huées, l'année passée, quand on s'est rendu compte que les huées avaient été un petit peu masquées par la production, ils nous ont dit, de toute façon, ça s'arrive dans tous les shows télévisés. En général, on essaie d'un petit peu balancer les sons de la salle. Et donc, c'est une pratique habituelle. Donc là, de nouveau, ça paraît nouveau. Et évidemment, ils n'ont pas vraiment donné de raison pour laquelle ils faisaient ces changements-là. On peut en discuter un peu plus tard. Et évidemment, ce qui va se passer, c'est qu'on ne sait pas le nombre de gens qui vont amener le drapeau palestinien ou qui vont huer. Alors, ce qui est assez intéressant cette année, c'est qu'en fait, les fans qui vont acheter ce qu'on appelle un fan package, donc des tickets pour les shows ou bien qui sont transmis en direct ou les répétitions générales, ont déjà dû s'engager à les acheter. Et on parle quand même de coûts entre 700 et 900 euros. Donc, ce sont des tickets assez chers. Et on peut se demander si éventuellement les fans des fan clubs de pays qui boycottent l'Eurovision vont éventuellement être forcés à venir quand même à l'Eurovision parce que c'est quand même assez cher. On vont peut-être pouvoir revendre, mais c'est pas encore assez clair. Et s'ils vont peut-être vouloir marquer leur frustration en huant ou en venant avec des drapeaux palestiniens. Donc ça, éventuellement, c'est la question qu'on peut se poser. Et pour donner un petit peu un exemple, l'année passée, les plus gros problèmes pendant la représentation de Yuval Raphaël se sont passés pendant le Family Show. Le Family Show, c'est la répétition générale qui se fait l'après-midi du show qui est retransmis et qui est en fait le show le moins cher. Donc les gens qui ont vraiment voulu faire du grabuge n'ont pas voulu trop investir dans leurs tickets et ont vraiment pris les tickets les moins chers pour pouvoir venir vraiment se faire le plus de grabuge et de problèmes. Donc ça, évidemment, on peut pas vraiment le prévoir, mais c'est vraiment un des facteurs on peut se poser la question, est-ce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont vouloir marquer leur frustration en huant ou en venant avec des drapeaux palestiniens?
On comprend donc que c'était des gens qui venaient, comme vous l'avez dit, uniquement faire du grabuge et qui ne venaient pas être spectateurs de l'Eurovision. Alors, vous avez souligné un point assez important, c'est la raison de ces changements. ORF, qui est l'un des principaux défenseurs d'Israël depuis le début, est-ce qu'on a peut-être un début d'explication du fait qu'ils aient autorisé cela sans pour autant sans tout savoir, car on imagine qu'ils gardent des choses pour eux, mais est-ce qu'on a un petit début?
Alors évidemment, je ne peux pas parler pour eux, ils n'ont donné aucune explication. Je peux éventuellement essayer de deviner les raisons. Moi, je pense que ça doit être un peu vu comme une compensation, parce qu'on se rend de plus en plus compte des pressions énormes, évidemment, de chaînes publiques qui boycottent, d'organismes pro-palestiniens, d'organismes de fans, d'artistes. Il y a énormément de pression sur eux, et aussi énormément d'accusations de favoritisme, notamment parce que le sponsor principal de l'Eurovision, c'est la compagnie israélienne Marathon Oil, donc c'est ils sont tout le temps accusés de favoritisme par rapport à Israël. Et je pense qu'ils se sont dit, cette année, avec les pressions, les accusations, il va être difficile d'en plus interdire les drapeaux. Et évidemment, il voulait pas être accusé de favoritisme en masquant de nouveau les UE. Donc, je pense qu'on peut facilement se douter des raisons, et à mon avis, c'est un peu un genre de compensation avec ce qui se passe. Je pense qu'on peut pas faire ça en plus, et donc ils ont un petit peu lâché du terrain sur ces deux points-là.
Alors, 35 pays ont annoncé participer au concours, dont la Belgique, ce qui en fait le plus petit total depuis 2003. L'Eurovision vit-il une crise?
Je pense que les gens qui n'aiment pas l'Eurovision, les gens qui se laissent faire pression sur l'Eurovision sont en train de faire un petit peu se monter le borichon là-dessus. C'est pas un chiffre très très bas, puisque l'année passée on était à 37, on a eu 5 retraits, mais 3 pays qui rejoignent l'Eurovision à nouveau. Donc on est à que 2 pays en moins que l'année passée. La finale se fera avec 25 pays au lieu de 26, donc uniquement un pays de moins, puisqu'on aura les deux 10 qualifiés de demi-finale et le Big Four et le pays organisateur. Donc il n'y aura pas une grande différence. Et si on part avant 2003, il y avait souvent 25, 26 pays. Donc c'est un petit peu moins l'année passée. C'est un petit peu moins que le record. Le record, c'est 43 pays. C'est arrivé que 3 fois. Donc on est dans les normes. Je pense que ce sont vraiment des gens qui essayent vraiment de nouveau de mettre pression et pour des raisons négatives, d'un petit peu exagérer une crise qui en fait n'en est pas une.
Alors, ces 35 pays dans les prochaines semaines hein, vont devoir choisir leurs représentants. Selon vous, certains artistes vont-ils être mis sous pression pour prendre position? Et donc peut-être, eh bien, s'ils remportent le concours de la chaîne nationale, se retirer pour laisser la place à quelqu'un d'autre sous pression?
Alors, il y a eu énormément de pression l'année passée, au point tel qu'on a interdit aux artistes de parler de politique pendant le concours. On a bien vu, par exemple, le chanteur croate, quand il n'a pas été qualifié, a fait une tirade très longue sur Instagram contre Israël. Mais avant d'être qualifié, il y a une espèce d'interdiction de parler de politique. Ce qu'on voit, comme vous l'avez expliqué, c'est qu'on a pas mal de gens, notamment beaucoup au Portugal, qui ont déjà dit que s'ils gagnaient la présélection portugaise, ils n'iront pas à la révision. Et de nouveau, la chaîne publique portugaise n'a pas encore parlé de ce qu'elle pouvait faire. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de pression, mais une fois qu'on est enlisté, une fois qu'on devient représentant du pays à l'Eurovision, on ne peut plus parler de politique jusqu'à sa disqualification ou à la fin du concours. Mais clairement, ça a été fait pour protéger les artistes, parce que les pauvres sont pour beaucoup d'entre eux très jeunes, pas experts en politique, c'est pas leur métier, mais ils sont sous pression énorme de prendre position, et malheureusement, pour les protéger, on a dû leur interdire d'en parler de politique, ce qui au final n'est pas plus mal.
Si un des pays qui fait partie des 35 eh bien, ne trouve pas de personne pour participer à l'Eurovision, car sous pression, il peut se retirer de la liste des 35?
Il peut se retirer, mais il y a des amendes. S'il y a des amendes, donc à partir d'un certain stade, il y a des amendes, ils peuvent se retirer. Ce qui s'est passé souvent, il y a parfois des gens qui ont gagné notamment la présélection italienne, qui est une très grosse présélection, qui est un festival en lui-même, le festival de San Remo. Parfois, je crois qu'année passée ou quelques années, un des gagnants était déjà en tournée au théâtre de l'Eurovision, et donc c'est le deuxième qui a pris sa place. Donc en général, souvent, on trouve un deuxième. Quand ce sont des présélections avec un concours, on continue à prendre le classement et on descend dans le classement, donc on trouvera toujours quelqu'un qui sera motivé à venir à l'Eurovision. Et en général, pour les autres pays, s'ils sont nominés, comme en Belgique par exemple, en général, c'est pas un problème puisqu'ils savent à quoi ils s'engagent. Donc, mais je pense qu'en général, je pense pas que les gens vont se retirer en dernière minute. C'est la seule vraiment raison pour laquelle je verrais qu'il y ait un pic qui se décommande, c'est que vraiment l'artiste fait semblant d'aller à la révision et vraiment le jour même refuse de chanter. Mais sincèrement, je pense que la plupart des gens, la plupart des artistes ne vont pas dire non à une scène de 180 millions de téléspectateurs. Ils seraient bien bêtes. Donc je ne suis pas trop inquiet là-dessus.
Oui, pour conclure, Anthony, c'est vrai qu'on sent dans vos paroles, l'Eurovision fait toujours rêver les artistes aujourd'hui.
Je pense que pour la plupart d'entre eux, oui. Je pense pas que ça, ils vont. Je pense pas que certains vont peut-être se désister s'ils gagnent leur présélection, mais s'ils s'engagent, à mon avis, les chaînes publiques européennes vont faire tout, notamment légalement, pour les forcer à chanter. Je pense pas qu'ils vont avoir trop de mal à trouver des candidats.
Anthony, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka et merci à vous de répondre toujours à nos questions au sujet de l'Eurovision. À bientôt.
À bientôt. Merci Blaise. Au revoir.